Il est 19h sur Radio Campus Paris et pour la toute première fois, vous écoutez Sériologie. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs, pour ce premier opus de Sériologie, on va tenter de répondre à la question suivante. Friends, amis ou ennemis ? Et pour en parler ce soir, on reçoit deux invités. Renan Cros, bonsoir Renan.
Bonsoir.
Donc Renan, tu es professeur de cinéma à l'ESSEC et tu présentes l'émission Le Cercle Série sur Canal+, et cerise sur le gâteau, t'es ancien bénévole de Radio Campus.
Exactement, ça faisait très très longtemps que j'étais pas venu à cette table, ça me fait un truc. J'étais, à l'époque, je présentais Extérieur Nuit,
ouais.
Et puis d'Extérieur Nuit à Canal+, une autoroute.
C'est ça, et ça te fait un truc j'espère, enfin tu qualifierais comment ce truc?
Non mais c'est... Alors, ça n'a pas bougé, et je ne sais pas si c'est un compliment. Mais voilà, j'étais là il y a 14 ans avec toute la bande d'Extérieur Nuit, dont une partie est toujours avec moi sur Canal,
ouais.
Donc c'est rigolo.
Waouh, ouais, c'est beau.
C'est une histoire d'amitié, comme on va parler aujourd'hui.
Ouais, tout à fait, c'est dans le thème. Et on reçoit aussi Pitoum, qui est animateur de l'émission La Demi-Heure sur RCP et qui est grand fan de Friends devant l'éternel, c'est pour ça que tu es là.
Bah, je suis 1m87 quand même, donc effectivement,
excellent.
Plutôt grand. Oui, tout à fait. Friends qui me suit depuis plus de 20 ans, je pense, puisque j'en suis à un nombre de revisionnages que j'ai arrêté de compter en réalité, puisque c'est plusieurs fois l'intégrale par an depuis 2000. 2000 et quelques, quoi.
Alors,
début 2000.
Je dis quoi, méga fan, ultra fan, giga fan?
Je sais pas, parce que je suis pas fan, c'est ma famille, quoi. T'es pas fan de ta famille?
Non, pas vraiment, mais c'est un autre sujet. Je réserve ça à mon psy. Oui, ça fait partie de toi.
Ça fait partie de ma vie, ouais. Et qui est apparu, c'est apparu un peu. C'était pas prévu, mais ça a été un truc avec ma sœur où en fait on s'est retrouvés avec les. On regardait comme ça sur France 2. Quand on était ados, de temps en temps, on aimait bien sans plus. Et puis, on a une amie prof d'anglais, une amie de nos parents prof d'anglais, qui nous a dit « Ah non, mais il faut regarder en anglais, arrêtez de regarder en VF », qui nous a passé une demi-saison en cassette VHS de la saison 5. On a regardé en VOST, on a dit « C'est incroyable », et on est allé acheter les DVD. Il y avait un rituel, on allait acheter un intégral de DVD, on a commencé par la saison 1, et on se faisait la saison dans la journée. Et on a fait ça pendant quelques mois, il fallait l'argent de poche quoi, donc ça coûtait à l'époque 50 euros les coffrets DVD. Et on a fait ça pendant un an, on a regardé l'intégrale comme ça ensemble et c'est devenu le truc qui nous a rassemblés quoi.
Et on salue bien ta sœur.
Ouais.
Et avec moi ce soir pour animer et réaliser avec brio et main de maître, Maxime.
Bonsoir Dalia.
Bonsoir Maxime. Alors Renan, Pitoum, si vous deviez expliquer ce que c'est la série Friends à quelqu'un qui l'aurait jamais regardé, vous diriez quoi ?
Bah déjà que le titre est plutôt bien trouvé, c'est-à-dire que ça s'appelle Friends et c'est l'histoire d'une bande d'amis. C'était pas le titre original au départ, mais en fait ils sont arrivés à la conclusion très simple que les idées les plus simples étaient les meilleures. Donc en fait c'est l'histoire d'une bande d'amis à New York. Qui vivent une vie, je pense dont on va parler, qui me semble absolument irréelle, mais c'est à mon avis le plaisir de la série.
Et toi, Pitoum, du coup?
Mais c'est un peu, je dirais un peu la même chose, mais quand j'en parle à des gens qui regardent pas, je dis toujours, mais en fait, c'est une série qui est vraiment très 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 drôle et qui te surprend toujours et tu découvres toujours de nouvelles vannes et de nouvelles choses et qui met ce truc singulier dans les relations humaines qui est genre. Oh, la vie est un peu genre what the fuck des fois, mais cool et on se marre bien et c'est plutôt ça moi sur lequel je mets l'accent.
Ouais, c'est comme ça que tu la vendrais.
Et il y a un côté d'humour un peu intemporel je trouve. Alors après je vieillis aussi donc peut-être il est intemporel pour moi et pas pour les autres.
Ouais, pas pour les jeunes, on en parlera tout à l'heure. Maxime, toi tu la décrirais comment la série ?
J'avais juste une question à Renan d'abord, c'était quoi le titre original ?
Je crois que l'un des premiers titres c'était Central Perk, qui était le titre du café. Et il y en a eu plein, mais ça s'est appelé Central Perk juste quasiment à la diffusion du tournage du pilote. Et c'est Martha Kaufman et David Crane, les créateurs, qui se sont rendus compte que en fait, ça ne disait rien aux gens. Et dans mon souvenir, je crois que c'est un assistant qui leur a dit « Bah oui, mais it's just a story about friends ». Et tout d'un coup, ils ont fait « Ah, génial, ça s'appelle Friends ». C'est ça, Maxime, tu confirmes?
J'ai pas l'information.
Ah, je pensais que tu l'avais.
Ah non, non, c'était une vraie question. C'était une vraie question.
Parce qu'il y a des quiz cachés, en fait.
Parce que Maxime connaît très, très bien Friends par cœur.
Tout à fait.
À moins que vous, mais...
Mais méga fan aussi. Ouais, donc, merci les assistants sous-payés qui ont... Enfin, l'assistant sous-payé qui a eu une idée de génie.
Mais pour la décrire, je dirais, c'est ça, c'est le quotidien de 6 amis new-yorkais. Voilà.
Ouais, c'est ce que tu dis. Renoncer, simple.
Oui, et d'ailleurs, c'est pas une série de pitch, c'est une série de gags, de situations, d'écriture.
Ouais, c'est une sitcom, effectivement. Depuis tard, je dis série, mais c'est quand même une branche spécifique des séries. Alors, tu as commencé à en parler, Renan. Toi, ta thèse, c'est que Friends, ça nous a un peu mal préparé à la vie d'adulte hein, et un petit peu déprimé, nous, toute cette génération, parce que la série n'est pas réaliste. Est-ce que tu veux.
En fait, ce qui m'intéresse dans Friends, moi, j'ai été vraiment percé par cette série et je pense que toute une génération, alors une génération qui s'étend, j'ai l'impression, en âge, si aujourd'hui elle a du mal à affronter la réalité, c'est qu'elle a grandi avec des représentations de la vie d'adulte qui ne sont absolument pas celles qu'on vit. Et ce que je trouve génial dans Friends, c'est que c'est vraiment une série refuge. Et j'en ai un exemple, qui n'est pas un exemple drôle, mais qui est un exemple là. Je me souviens très bien que le lendemain des attentats du Bataclan, tous mes copains sont venus à la maison et on a regardé Friends tous ensemble. Et ça a produit un truc de cocon, de sécurité. Parce que la vie dans Friends, elle est dénuée de tragédie, elle est dénuée de problèmes, elle est dénuée de tout ce qui fait que la vie d'adulte, c'est un peu de la merde. Et en fait, ce qui est génial dans cette série, c'est qu'elle donne une sorte d'illusion que la vie n'est faite que de gags, que de discussions, que de blagues, qu'on peut un peu être des enfants tout en étant des adultes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a vraiment cette idée assez belle dans la série que la vie est une sorte de cocon où notamment, par exemple, on ne ferme jamais les portes. C'est-à-dire que les gens passent d'un appartement à l'autre. Globalement, je n'aimerais pas que les gens rentrent chez moi comme ça. C'est-à-dire que... et c'est ça qui est assez génial, c'est que c'est une série qui n'a pas d'intimité et pourtant qui est une série sur l'intimité. Et donc, ça a fabriqué une sorte d'illusion. Et puis, moi, en grandissant, je rêvais de vivre donc, dans un appartement à New York. Voilà, je n'en ai vraiment toujours pas les moyens, donc ça va être compliqué. J'aimerais passer mon temps dans un café à discuter avec des copains. Si je veux me payer cet appartement à New York, ce n'est pas possible. Enfin, voilà. Et en fait, une fois qu'on applique le principe de réalité à cette sitcom, elle devient une sorte de, d'illusion. Et donc, c'est là où il y a forcément quelque chose de décevant. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on a encore envie, et tu le citais, de la voir et de la revoir. C'est comme un refuge, en fait.
Ouais. Alors, si je me fais un peu l'avocat du diable sur l'absence de contraintes sociales, on a quand même Monica au chômage, Ross qui fait un burn-out, Phoebe qui galère.
Mais tout ça traité comme une blague. C'est-à-dire qu'elle est au chômage, mais ça dure quelques épisodes rigolos, puis hop, ça repart. Enfin, il n'y a pas de. L'argent dans Friends, par exemple, n'est pas quelque chose de concret. C'est toujours au service du gag. C'est-à-dire qu'on se souvient notamment, elle est en couple avec un multimilliardaire à un moment, qui est joué par John Favreau. Et en fait, elle le quitte parce que, objectivement, il est très beau, il est très sympathique. Oui, il fait du free fight, mais bon, ça, on s'en fout. Elle resterait avec lui. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, comme ça, d'une sorte d'argent magique, de choses magiques. Mmh. Le meilleur gag de la série, c'est le fait qu'on ne comprenne pas le boulot de Chandler. Oui. Et ça dit bien, le rapport au travail. C'est-à-dire que le travail n'est pas un lieu d'émancipation des personnages parce qu'il n'existe pas. Oui. Et le travail de Ross, qui est prof, moi étant prof, vraiment, ce que fait Ross, ça n'existe pas. Hein. C'est...
On aimerait bien, peut-être.
Ce n'est pas possible. Hein, mais... je, voilà.
Donc, il est paléontologue à la base.
Oui, déjà, mais paléontologue, c'est pas un vrai métier. Oui. En fait, on le sait bien.
Alors,
ces gens-là sont...
je veux juste préciser que ces propos n'engagent que Ronan. Non, mais ne nous appelez pas l'amicale des paléontologues.
Ce qui est rigolo dans la série, c'est que les métiers des. Même l'ascension sociale de Rachel, c'est presque plus un truc de conte de fées, de comédie romantique à la Nora Ephron, ou bien plus tard, ce qui s'appellera Le Diable s'habille en Prada. C'est-à-dire. En fait, c'est des mondes qui sont encore une fois des terrains de jeu et absolument pas. Si on compare en fait à la même époque, il y a deux sitcoms, il y a Friends et Seinfeld. Mmh. Et Seinfeld, c'est l'antithèse de Friends, puisque Seinfeld, c'est vraiment une série qui n'est pas du tout un refuge, puisque tout est un problème. Puisque aller au restaurant, sortir, draguer, discuter, donne lieu à des conversations infinies. Et là, au contraire, la réalité sociale ne fait que exister. C'est-à-dire que Jerry Seinfeld, il n'écrit son humour, en tout cas, il ne construit son humour que sur la véracité sociale de ce qu'il vit. Et c'est pour ça que moi, Seinfeld, c'est un sommet d'angoisse pour moi. Ouais. Quand je regarde ça, j'ai envie de me buter parce que tout d'un coup, tout est un problème. Friends, voilà, je suis même pas certain qu'ils payent vraiment leurs muffins et leurs cafés dans mon temps.
Alors, on en parlera tout à l'heure dans le quiz parce qu'on a essayé de calculer, enfin pas nous, mais un fan a essayé de calculer
le montant.
Tout ça, le montant.
C'est pas possible. Enfin, et donc, ça crée une frustration pour nous. Mais encore une fois, je dis pas que c'est une de mes séries préférées, mais ce qui est fabuleux, c'est l'effet. presque un peu antidépresseur de la ouais. série.
Alors Pitoum, est-ce que toi tu dirais que c'est à cause de Friends que t'es un adulte mal adapté, parce que c'est le cas? Enfin, c'est pas un secret, donc je peux le dire à l'antenne, mais qu'est-ce que c'est quoi ton point de vue
là-dessus? Ça serait chercher des excuses là où quand même il faudrait que j'assume un peu mes choix. Mais non, alors je rejoins sur plusieurs points et quand même j'ai des petites nuances je pense à apporter moi en tant que la série refuge complètement. Enfin, vraiment, moi c'est la série doudou, il y a pas de souci. Je vais pas bien, je mets Friends.
La question c'est pourquoi.
Moi je pense qu'il y a deux choses. Il y a un, effectivement, le côté habitude. Moi c'est quelque chose que je regarde depuis 15 ans. C'est quand je dis c'est ma famille, c'est un peu vrai. Mm. C'est juste des voix que j'aime entendre. Les épisodes, je les connais effectivement par cœur. Je peux anticiper les gags, machin. Mais ça me fait rire quand même et je les aime bien. L'autre point, c'est je pense qu'effectivement les problèmes n'en sont que très rarement. Il y a quelques fois où il y a des petits trucs qui sont un peu...
Un épisode qui se finit sur un vrai problème, qui est... On peut spoiler la série, on est d'accord que...
Oui, je
fais attention, mais c'est le moment où Monica et Chandler comprennent qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants. Le seul moment où la série se termine par un silence et où il y a une sorte de poids réel qui tombe sur les personnages, parce que la question aussi de l'enfant est centrale dans la série, puisque, en gros, on nous fait croire que ce sont des adultes, alors qu'en fait, ils se comportent... Enfin, si vous regardez un générique de Friends et que quelqu'un ne connaît absolument pas la série, la réponse que les gens donnent, c'est « ces gens ont l'air cinglés ». Et ils le sont, en fait. Oui. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est si vous enlevez... Il y a des gens qui font ça, des gens qui s'ennuient, mais qui font ça, qui enlèvent les rires de Friends. Oui. Et si vous regardez la série, tout devient effrayant. C'est-à-dire que tout devient... C'est-à-dire ces gens-là, Ross est juste un stalker, en fait. C'est juste un... Aujourd'hui, on dirait que c'est un incel. C'est-à-dire c'est un type qui a du mal avec les femmes. Et en fait, vous enlevez les rires et tout devient hyper flippant.
Monica est névrosée.
Ouais. Ils sont tous... Sauf que le rythme, et ça, on en parlera, le rythme de la sitcom transforme ça... C'est des clowns, en fait. Et c'est vraiment des clowns.
C'est du clown. Pour moi, c'est un peu ce côté... c'est de la farce, quoi. On est sur du gars... Il y a quand même pas mal... Il y a beaucoup de gags qui sont des gags de discussion, mais il y a beaucoup de gags physiques aussi. Enfin, il y a des chutes, il y a des bagarres ridicules. Voilà. Donc, il y a vraiment un truc de légèreté, effectivement, qui fait du bien. Et je rejoins sur le truc. J'ai quand même un petit truc où moi, il y a quelques personnages, je trouve, qui ont une trajectoire qui est plus réaliste que d'autres.
Phoebe, tu veux dire?
Alors,
Phoebe qui porte les triplés de son frère, c'est vrai que c'est
c'est un quotidien, quoi.
Pour le coup, la carrière professionnelle de Monica, moi, elle me semble pas si extravagante que ça.
Comme j'évoquais tout à l'heure, une grosse période de chômage, de galère, elle reprend des petits boulots alimentaires aussi.
Elle a quand même ce truc. Alors, oui, c'est traité avec légèreté, mais il y a un truc de.
Alors, mais ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, il y a une série américaine qui s'appelle The Bear, je ne sais pas si vous la connaissez, sur la cuisine. Absolument anxiogène. Et je me disais, donc Monica Geller, c'est ce qu'elle a fait pendant des années. Et non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce moment, alors ça, c'est le décorum qui est vrai. C'est ce moment où elle est dans un diner années 60.
Ouais.
Bon, ça existe à New York. Mm. Mais c'est des petits points, mais jamais quand on voit, par exemple, ce que The Office a raconté du travail, ce que Parks and Recreation aussi a raconté du travail. Friends, le travail, je me souviens d'un épisode où l'enjeu du travail, c'est Rachel doit-elle fumer pour aller à la post-clope Et en fait, tout est extérieur. Par exemple, c'est quand même un truc aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'on en parlera, mais la nouvelle génération regarde cette série en disant mais ces gens sont mal élevés, en fait. Il y a quand même un moment où Rachel a littéralement une relation avec son subordonné, ce qui est encore pire.
Oui, son assistant, c'est vrai.
Ce qui est encore pire. Et aux États-Unis...
Qui flippe d'avoir 25 ans.
Et aux États-Unis, c'est même pas que c'est impossible. C'est légalement... Et donc... Tout ça est un gag, mais le travail au sens... Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que ces gens vivent une réalité, mais tant mieux. Sinon...
Ce qui est le propre de plein de sitcoms aussi, j'ai l'impression.
Celle-ci, par exemple, et tu le disais très justement, il y a un truc de comédie. En fait, Friends, ce qui est génial, c'est qu'ils jouent avec leur corps constamment. C'est-à-dire que tu les vois jouer, tu peux couper le son, et c'est drôle quand même. parce que c'est des acteurs burlesques, parce que les deux créateurs, David Crane et Martha Kaufman, ont poussé ces curseurs-là. Et donc, en fait, il y a un truc vraiment de, presque de guignol. C'est-à-dire que Rachel, elle court dans tous les sens. Ouais. C'est des stéréotypes. Et donc, ça marche pour ça. C'est-à-dire que, tu le disais très justement, tout le monde dit Friends, il faut le regarder en VO et tout ça. Mais ce qui est fou, c'est que la VF marche quand même parce que les acteurs jouent tellement avec leur corps.
Ce qui est très rare. La VF qui fonctionne, c'est quand même rare.
Et la VF est plus soft que la VO. Ce qui est un truc étonnant, c'est que les gags en VF sont un peu édulcorés, alors qu'en VO, ils sont beaucoup plus frontales.
Alors après, sur les aspects irréalistes, quand même, on peut reconnaître que Friends, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de séries, tu nous le diras, Renan, essaie un peu de justifier un peu en méta les côtés irréalistes. L'appartement de Monica, il est grand, il est super bien situé, mais on nous explique que le loyer est plafonné, qu'elle le sous-loue à sa grand-mère. Ross, pardon, à un moment, leur dit « La vie, c'est pas boire toute la journée du café à son Central Park, Phoebe aussi leur dit la même chose dans un cold open, etc. Donc la série est quand même consciente de ça et on joue un petit peu. Donc est-ce qu'on peut lui reprocher d'être irréaliste alors qu'elle fait un peu, elle perd un peu de temps à s'excuser d'être irréaliste finalement.
Ça c'est au fur et à mesure aussi des saisons parce qu'il y a eu quand même des papiers à l'époque qui disaient c'est super, c'est très rigolo, mais c'est pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi Friends arrive à la télévision. En fait, c'est-à-dire que dans les années 80, même à partir des années 50, le début de la sitcom c'est les années 50, mais à partir des années 80, la sitcom c'est la famille. Et la famille décomposée, recomposée. Donc, vous avez un peu la fête à la maison qui arrive dans les années 90. Ouais. Voilà.
Notre belle famille
aussi. Mais tard, je pensais à avant, et ça m'emmerde de le citer, mais le Cosby Show, par exemple. voilà, on est obligé.
Ou Roseanne dans un autre genre de famille.
Roseanne. Ouais. Bon. Et puis, en fait, on s'est rendu compte dans les années 90 que le pouvoir d'achat, il s'était déplacé. C'est-à-dire que c'est plus la famille, c'est plus ce qu'on appelle la fameuse ménagère, c'est qu'il y a des gens qui se sont extirpés de leur famille, qui sont allés vivre dans les grandes villes et qui sont sans famille. Et donc, ils ont créé une bande d'amis. Et c'est pour ça que dans les années 90, on voit arriver deux sitcom phares qui sont Seinfeld, c'est-à-dire les adultes névrosés, plutôt trentenaires, voilà, même si Jerry Seinfeld, il a tellement une tête de vieux qu'on a l'impression qu'il a 40 ans tout de suite. Et puis, ces gens qui ont... Alors, par exemple, à quel âge vous donnez à ces personnages?
Dans Friends.
Mais je sais,
on connaît l'âge.
Mais en fait, on ne peut pas leur donner d'âge. Parce que, encore une fois, donc, ils pourraient avoir 30 ans, ils pourraient avoir 20 ans, ils pourraient même parfois à la fin en avoir 45. Ça, ils vivent toujours la même vie. Et si vous regardez le pilote et vous regardez le dernier épisode, au fond, les personnages n'ont pas changé. Et par contre, dans la vie, on change. Donc oui, ils ont changé de statut social parfois.
Ils ont des enfants, etc. Mais les enfants, c'est des mêmes.
En fait, les enfants, c'est des gags. Et donc, on rajoute Ben. Et Ben, on va faire des gags sur ses enfants confrontés à l'enfance. Puisque tous les gags avec Ben, c'est... et même tous les gags avec la fille de Rachel.
Emma.
Emma, voilà, c'est... Joey veut pas lui rendre sa pluche, tout ça. Et c'est ça qui est assez beau, c'est que c'est un peu Peter Pan, c'est un peu les enfants perdus. C'est-à-dire qu'ils ne grandissent pas, ils vont toujours au même café. On est bien placé pour savoir, nous, à Paris, par exemple, qu'un café qui dure pendant 10 ans et qui ne bouge pas, ça n'existe pas.
La plus forte raison à New York.
Voilà, à New York encore plus. Ouais. Et quand on voit, je sais que c'est un pèlerinage, j'y suis passé d'ailleurs cet été, à New York, on va voir l'appartement de Friends, l'immeuble. Et en fait, le quartier, mais c'est même pas un quartier, c'est le quartier le plus chic et le plus cool. C'est vraiment le sommet du cool new-yorkais. Le loyer, la grand-mère, elle s'est fait arnaquer par Monica pendant des années. C'est-à-dire que c'est un loyer, voilà. C'est assez fou, voilà. Et pourquoi, en fait, c'est cette façade-là d'immeuble qu'on voit, ça c'est rigolo, c'est parce que c'était l'appartement du décorateur de l'époque. Et qui a dit, filmez la façade. Mais en fait, le quartier ne correspond absolument pas. Enfin, si vous allez à New York, c'est très chic comme phrase, mais si vous allez à New York, vous vous dites, ah oui, donc Rachel et Monica, ils passent par là. C'est pas possible. C'est-à-dire que leur vie n'existe pas. Et tant mieux, parce que si c'était vraiment le New York des années 90, il y aurait des trucs atroces dans la rue, voilà.
Et est-ce qu'on a envie de voir ça quand on regarde une sitcom? C'est un peu ça la question.
Probablement pas.
Ouais. Et puis tout, quand même, quand on a une série un peu doudou, un peu consolatoire, c'est qu'on arrive dans une certaine mesure, à s'identifier à certains aspects du personnage. Est-ce que tu t'identifies à certains personnages ?
Alors, certains, je pense que trop longtemps, j'ai voulu absolument être Chandler parce que c'est l'humour le plus, celui qui me parlait le plus. Mais je me faisais la réflexion en écoutant, en disant, voilà, ce truc un peu intemporel, disant, mais c'est un peu la, c'est pas de bol, c'est la réflexion que j'ai en ce moment. Et je me dis, en 10 ans, j'ai pas changé. et j'ai une vie qui est, j'ai une vie de, ni d'adulte, ni d'enfant, parce que j'ai quand même un travail, un salaire. Personne sait ce que je fais et comprend vraiment ce que je fais.
Mais est-ce que c'est pas la vie de tous les trentenaires citadins, en fait, dans les grandes villes.
Et
c'est réaliste.
C'était pas le cas avant.
C'était pas le cas avant. Et je pense qu'on a fabriqué nos vies aujourd'hui comme Friends.
Mais
aujourd'hui, si vous avez un groupe d'amis, chacun a essayé de recomposer en disant c'est la Rachel de la bande, c'est la Monica de la bande, c'est... ou c'est même le Monica de la bande, parce que ces personnages sont sexualisés, mais en fait, on peut les... voilà. Et en fait, c'est intéressant comment cette série est basée sur des stéréotypes qui sont devenus des archétypes. Mmh. Aujourd'hui, on pense la réalité par rapport à Friends. C'est-à-dire que je pense qu'on modèle nos vies, et peut-être que tu modèles ta vie sur Friends.
Alors, typiquement, juste pour... j'ai rencontré mes voisins, merci le Covid, donc je connais mes voisins de palier, donc vraiment, alors, nos portes sont fermées à
voilà,
clé quand
c'est
même.
Ça.
Oui, on est à
mais
Paris,
on, a,
rappelons-le.
On a les clés quand même des uns et des autres, on peut aller chercher des trucs chez les uns et les autres. Et un des premiers trucs qu'on a fait quand on s'est rencontrés, c'est décider qui était qui dans Friends. Donc, on avait notre voisine du dessus qui était Joey.
Magnifique.
Donc voilà.
Magnifique.
Je les salue.
Mais chouette. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est beau comme quand une fiction devient un socle commun, en fait, et une manière de penser la réalité.
Ouais.
Et c'est la force de cette série.
Et on continuera à en discuter après une petite page de musique.
It's Raining Men de The Weather Girls et vous écoutez toujours Sériologie sur Radio Campus Paris.
De retour avec nos invités Renan Cros et Pitoum pour parler de la série de Friends. Et It's Raining Men, c'était dans l'épisode 22 de la saison 7, celui qui rencontrait l'auteur de ses jours quand...
Kathleen Turner,
exactement.
Qui joue le la mère, on va le dire, la mère dorénavant, la mère de Chandler.
Oui, tout à fait, la grande Kathleen Turner. Maxime, je crois que tu avais une anecdote.
Oui, non, j'avais juste un truc qui m'agace dans Friends. Il y a l'épisode où Chandler découvre ce qu'il y a derrière la porte du fond du couloir. Voilà.
Ouais.
Et si on réfléchit, Chandler et Joey, ils ont quand même vécu tous les deux dans cet appartement pendant plusieurs mois quand ils ont gagné le pari. Ils n'ont jamais eu la curiosité d'ouvrir cette porte.
Non.
Écoutez, je crois que l'affaire est résolue. Voilà, ce sera tout votre honneur.
C'est la fin de l'émission. Oui, mais on parle quand même de Chandler et Joey, c'est pas les deux coups.
Il y avait du porno gratuit.
Tiroir,
je rappelle, vraiment, tout le reste n'existait pas.
Mais quand t'es chez toi, que jamais je suis dans un appart où je me suis dit, ah bah tiens, je vais pas ouvrir cette porte pour voir ce qu'il y a derrière. Tu vois, enfin voilà.
Est-ce que tu l'as. Oui, non, j'allais dire, est-ce que tu. Je reste sur le porno gratuit, hein, vraiment. On est dans les années 90, c'est le seul moyen d'accès à. Donc, voilà.
Cela dit, le rapport à la sexualité dans Friends, c'est un long sujet quand même.
Oui,
c'est...
tout à fait. Alors, peut-être qu'on va en parler maintenant, justement. On va parler de la vie amoureuse, de la vie sexuelle des personnages. Et on voudrait parler plus spécifiquement de l'annonce de la grossesse de Rachel. On a un petit extrait. I'm pregnant. Ross. Ross. Okay. Whenever you're ready. And you're the father, by the way, but you got it.
C'est vrai que si on enlève les rires, c'est dramatique.
On est d'accord. C'est même effrayant.
Ouais. Mais Ross est effrayant, de toute façon, avec ou sans rire. Alors, la grossesse de Rachel, c'est un vrai sujet. C'était l'occasion aussi peut-être de parler d'avortement, parce qu'elle hésite un petit peu, etc.
Oui,
et la série contourne quand même, contourne complètement ces sujets-là.
C'est un vrai problème et c'est un faux process. C'est-à-dire qu'on est à la télévision américaine, on est sur un network. Jamais il est question de ça. Puisqu'encore une fois, les Américains ont un rapport à cette question-là qui est cinglé. C'est-à-dire que pour eux, c'est très particulier de réfléchir à cette sitcom des années 90 avec nos référents d'aujourd'hui. Ouais. Et la question de l'avortement, je crois que c'est même pas un mot qui est prononcé dans la série.
Il est pas prononcé, oui. Il y a une petite hésitation. Rachel dit qu'elle peut-être, elle sait pas ce qu'elle va faire, mais c'est très, très
lointain
comme évocation.
Elle sait pas ce qu'elle va faire.
Voilà. C'est pas de quoi elle parle.
Ouais. Elle préfère l'abandonner devant une église que.
Oui. Oui, vois, ouais.
Mais c'est le problème aussi, encore une fois, de l'Amérique des années 90, de ces networks, mais cette question aussi de l'accomplissement féminin des personnages dans la maternité, aujourd'hui, on lève les yeux au ciel, c'est-à-dire que au fond, tous les personnages féminins de la série se sont accomplis avec des enfants.
Ouais, tout à fait.
Non, en fait. Je pense qu'on peut être très heureux sans enfants. Mmh. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tous ces personnages de Friends, dont leurs mômes aujourd'hui ont 25 et quelques années, ils sont tous dépressifs.
Et au bord du divorce.
Au bord du divorce, évidemment.
Pitoum, est-ce que tu dirais que... Enfin, comment la série a influencé tes relations amoureuses? Ça m'intéresse, ça intéresse les auditeurs.
C'est une bonne question, je ne sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure ça a influencé à ce point. Je pense que moi, ça m'a permis de justifier le bordel quand même. Mmh. Parce que vraiment,
ça décomplexe, ça déculpabilise
un peu. Ils font n'importe quoi.
Bah, en fait, quand t'es un ado, que tu regardes la série... Tu te dis, tu regardes avec affection ces histoires amoureuses, enfin entre Chandler et Monica, cette romance, etc. Ross et Rachel. Et quand tu es adulte et que tu as toi-même une vie sentimentale et sexuelle, tu te dis, mais ils font n'importe quoi. C'est ridicule.
Mais surtout, ils font pas grand-chose. Enfin, c'est-à-dire que toute relation sexuelle devient pour eux un événement. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'il y en a une par an et que vraiment.
Alors, est-ce que ça serait pas hyper réaliste, justement, je veux dire.
Non, mais c'est-à-dire que tout d'un coup, alors, il y a quand même des caractéristiques, c'est-à-dire Joey, il est vraiment réduit à ça. C'est-à-dire, on est sur Radio Campus, je pense que je peux le dire. Joey, c'est vraiment une bite sur patte. C'est-à-dire que vraiment, et il est raconté comme ça au départ. Puis petit à petit, on va nous raconter que non, peut-être il a des sentiments et qu'il va il y a tout un épisode où il découvre le fait de rappeler la fille avec qui il a couché. Ouais. Enfin, voilà.
Et pourtant, il le prend mal quand Chandler fait croire que Joey is a sex addict. Quand il cache leur relation avec Monica et qu'il dit, mais non, je suis pas un sex addict.
C'est le womanizer. Et ce qui est intéressant, c'est que des années plus tard, une série va prendre le relais de Friends, entre guillemets, c'est How I Met Your Mother. Avec le personnage de Barney Stinson, où là, pour la première fois, le womanizer, cette espèce de sale con, en fait, est montré comme un personnage pas forcément positif. Et Friends, c'est ça qui est assez fort, c'est que tous ces personnages sont saupoudrés comme ça de sucre et on les rend. Mais en fait, Joey, c'est un type qui va très mal. Rachel, elle sait pas ce qu'elle veut. La relation avec Ross. Stop.
Hyper toxique. Mais en même temps, Ross, il a une vie amoureuse catastrophique, Chandler aussi, donc ça, c'est pas idéalisé.
J'allais dire, en plus, moi, sur le justement, les archétypes, enfin, les stéréotypes qu'on leur applique et qui deviennent des archétypes, sur le début de la série, le womanizer, c'est presque plus Chandler, au final, que Joey, en réalité, parce que celui qui est vraiment en mode j'essaye de serrer tout ce qui passe vraiment sans me poser de questions.
Sauf que Joey serre, en fait.
Joey, il y a un truc de oui, il serre, mais en même temps, il y a un truc. Alors, c'est peut-être aussi une illusion, hein, mais on n'a jamais l'impression que c'est celui qui est le plus en demande. Il est là, il sert parce que les filles le trouvent
le
beau.
How you doing est quand même un truc atroce.
C'est atroce, mais c'est, enfin, moi j'ai du mal à le prendre autrement comme une vanne.
Oui, c'est
une vanne, et du coup je l'associe pas à un comportement propre de personnage. Pour moi, c'est un gimmick de ce personnage qui l'identifie.
Et en
Chandler,
même temps,
il y a vraiment le truc où
c'est hyper réaliste. Le gros lourdingue qui drague tout ce qui bouge, ça, c'est réaliste.
Sauf que le gros lourdingue qui aujourd'hui, dans une série, il serait vu d'un point de vue, comme l'est un peu, encore une fois, Barney Stinson dans How I Met Your Mother, et encore avec des pincettes, comme un personnage qui a un problème. C'est-à-dire qu'il ne sait pas se comporter avec les autres. Mais encore une fois qu'on a accepté que c'était une bulle irréaliste et que c'était des clowns, bah là, on rit parce qu'on voit que c'est vraiment un clown qui joue le dragueur lourdingue. Et même le rapport à la masculinité, à la féminité dans la série, je pense qu'on peut citer le. Je pense qu'il y a tellement d'exemples de ce qu'on appelle le fameux gay fear de la télévision américaine, où il ne faudrait surtout pas que les personnages puissent être soupçonnés d'être ensemble. Il y a cet épisode où Joey s'endort sur Ross. Ouais. Et la série, surtout pas, il faudrait surtout.
Et c'est un gag, encore une fois.
Et c'est un gag. Mais en même temps. Paradoxalement, la série va faire des avancées parce que je me souviens de ce personnage de patineur
avec
qui Fabi est marié.
Et il fait un mariage blanc. Ouais.
Voilà, et parce qu'il est homosexuel. Et ça, dans une série américaine à cette époque-là, c'est pas rien. Donc en fait, c'est pour ça que la série est un peu schizophrène. C'est que des fois, elle est vraiment pile dans son époque et on lève les yeux au ciel en disant bon, là, peut-être la grossophobie, tout ça. Et puis de l'autre côté, elle fait des avancées. C'est quand même une série sur la PMA. C'est-à-dire que, voire même la GPA ensuite. Enfin, il y a vraiment, et ça, c'est quand même pas rien.
Il y a le mariage de Suzanne et Carole.
Le mariage de Suzanne et Carole. Et de l'autre côté, des gags où on se dit, bah, ça, on l'écrirait plus aujourd'hui. Donc, c'est schizophrène, en fait.
Et alors, justement, est-ce que tu trouves que le traitement des personnages masculins et féminins est différent en termes de réalisme? Est-ce que les personnages féminins sont plus réalistes que les personnages masculins, inversement?
Ni l'un ni l'autre. Pas une femme, c'est difficile.
C'est peut-être mais
toi
tu en connais.
Oui, mais c'est peut-être toi qui pourrais nous dire si tu trouves que les personnages féminins sont réalistes.
Par exemple, pour moi, Monica, avec sa névrose et son obsession du mariage, des enfants, etc. Ça montre un aspect de ce pourrait penser une femme, ça correspond à un aspect de la réalité. Ce qui est problématique, pour moi, ce qui est plus problématique, c'est qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Comme tu l'as dit tout à l'heure, elles tombent toutes enceintes, elles finissent toutes par se marier. Rachel, alors, il y a un petit doute, mais quand même, on comprend qu'au final, elle renonce au job de ses rêves.
Oui, ça c'est dingue.
Pour Ross, Dieu, pour Ross.
Et puis, elle attend un peu le prince charmant, Rachel.
Elles attendent un peu toutes le prince charmant.
Pas Phoebe. Un peu moins Phoebe, j'ai l'impression. Enfin, s'il y en avait une qui devait être plus féministe parmi les trois, je pense que ce serait Phoebe.
C'est quand même quand elle se marie avec Miles qu'elle dit, c'est quand même à toute ma vie j'ai attendu d'être normal.
Bon, avant le mariage avec Miles.
Mais c'est toute la schizophrénie de la série, c'est que une fois que la série fait un pas d'un côté, elle fait un pas de l'autre. C'est pour ça que il y a eu donc aujourd'hui cette Gen Z qu'on adore qui a découvert la série.
Parlons-en. Qu'est-ce qu'ils en pensent alors?
C'est marrant parce que c'est par vague. J'avais quelques années des étudiants qui vraiment détestaient la série, trouvaient que c'était un ramassis de clichés homophobes, voilà. Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle revient un peu, et notamment elle revient avec une très jeune génération qui la regarde différemment. C'est là où moi je suis pas d'accord avec eux, c'est-à-dire qu'on peut. Il y a eu un papier à une époque, je crois que c'était sur Slate, je crois, pourquoi Friends est homophobe et tout ça, pourquoi c'est impossible à regarder. C'est la regarder avec un prisme qui n'est déjà pas celle de son époque, c'est-à-dire que ne demandons pas à des œuvres d'être à l'image d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment Friends, c'est vraiment le milieu des années 90 et le début des années 2000. Franchement, écouter la musique de cette époque-là, c'était déjà pas ouf. Donc voilà. Mais en même temps, il y a dedans des choses que je trouve très étonnantes, très surprenantes pour la télévision américaine. On le citait, il y a un mariage lesbien, il y a cette idée qu'on peut porter l'enfant de son frère. Enfin voilà, traité comme des gags, peut-être, mais qui existent dans l'inconscient collectif. Et ça, c'est pas rien.
Ouais. Avec, en plus, moi, j'ai quand même toujours une nuance, je trouve, sur la question de l'homophobie, grossophobie, vraiment pas, mais homophobie, transphobie. Il y a quand même quelque chose où une partie des gags qui reposent sur des situations où l'homophobie ou la transphobie entre jeux, c'est aussi on se moque des personnages qui sont homophobes et transphobes. À un moment, Ross, on se moque beaucoup de lui pour son homophobie, cette espèce de psychose qu'il a vis-à-vis de Carole et puis de sa rupture. Il en devient risible et on rit pas de de l'homophobie, mais du fait qu'un personnage soit à ce point angoissé sur des questions.
Et en même temps, à côté de ça, on a l'épisode où Chandler, où ses collègues pensent qu'il est gay, et c'est dramatique
pour
lui.
C'est dramatique et tout. Non, mais il y a les deux.
Et en même temps, Ross, il est vu comme un personnage dévirilisé parce que sa femme est partie avec une autre femme. Ce qui est encore une fois tout la problématique de l'époque, enfin tout la schizophrénie de ces auteurs là c'est-à-dire que faire rire à cette époque là c'est ça quand même. Moi je trouve que ce qui est quand même réussi dans la série, c'est qu'elle avance, et que plus elle avance, j'ai l'impression plus elle suit l'époque. C'est-à-dire que je trouve que les derniers épisodes sont plus ouverts, sont plus en tout cas font un peu plus rentrer l'altérité. Mais c'est pareil, la question de l'altérité, vous connaissez un groupe d'amis qui ne bouge pas en 10 ans où personne de nouveau n'est rentré, et tout le monde est éjecté en permanence. Le seul qui reste, c'est Mike, parce qu'à la fin de la série, ils se sont peut-être rendus compte que, et encore, il vient, il va, il vient, mais tous les personnages qui rentrent dans la série sont éjectés. Ces gens sont toxiques. C'est-à-dire, à un moment, il faut l'expliquer, c'est une amitié toxique, en fait. Et, mais ça dit aussi, et c'est pour ça que cette nouvelle génération qui regarde la série, elle ne s'y reconnaît pas, parce que, encore une fois, pour elle... C'est pas sa manière de se comporter.
C'est pas leur comportement.
Non, encore une fois, une génération qui a grandi avec Euphoria, quand elle regarde Friends, elle fait ouais, bah non.
Il y a un petit gap.
Il y a un petit gap, voilà.
Un léger gap.
Mais par rapport à l'épisode où Chandler vit dramatiquement le fait que ses collègues le prennent pour un homosexuel, en même temps, dans cet épisode, librement, ses collègues disent ah bah je connais un mec qui pourrait te plaire. Je veux dire, dans son boulot, c'est pas un problème de dire à quelqu'un bah tiens, j'ai un mec qui pourrait te
mais
plaire.
Mais c'est un problème pour lui. Et nous, on regarde la série pour Chandler, pas pour
ses
personnages.
Mais même aujourd'hui en France, personne, je pense, au boulot, enfin dans un travail, il dirait ah bah tiens, si tu cherches quelqu'un, j'ai un garçon qui pourrait te plaire. Enfin, partir du postulat que quelqu'un est gay, c'est quelque chose qui. Enfin, je veux dire, c'est comme si dans la série, c'était pas un problème de dire bah oui, tiens, si tu veux.
C'est le paradoxe.
Alors qu'aujourd'hui, c'est un problème.
Et avec ce truc où moi, je le perçois quand je regarde cet épisode, on rit quand même aussi un peu de Chandler et de son espèce de virilité fragile là, à cet endroit-là où vraiment c'est l'horreur qu'on imagine qu'il est gay. Il faut absolument qu'il prouve. Et pour moi, c'est aussi le ressort comique de l'épisode de. Mais Chandler, t'es un peu ridicule là, ça va, c'est bon, on t'a pris pour un gay, mais t'es obsédé par ça, va falloir que tu te calmes.
En même temps, Chandler est toujours ridicule, c'est un peu le propre du personnage. On continue d'en discuter après la musique.
I'm gonna love you just a little bit more, baby, de Barry White. Vous écoutez toujours Sériologie sur Radio Campus Paris.
Et cette chanson de Barry White, c'est dans l'épisode Celui qui a une jolie cousine. saison 7, épisode 19, avec Denise Richard et sa magnifique chevelure.
Il y a un problème aussi avec l'inceste, enfin, les relations incestueuses en Friends. Il y a vraiment un gros sujet là-dessus.
Il faudrait une autre émission pour en parler. De retour dans Sériologie avec Renan Cro, Pitoum et Maxime pour parler de Friends avec un petit quiz.
Oui, on va voir si vous êtes fan de la série. Je pense que vous avez la plupart des réponses, mais quand même.
Mais peut-être que nos auditeurs et auditrices ne les ont pas.
Ouais, vous pouvez jouer chez vous.
C'est ton côté Guilux en fait, ça va hyper bien.
Le jeu des 1000 francs.
Mes lunettes. Simon, bref. Alors, quel est le nom de famille de Monica? Non, je plaisante. Quelle est l'adresse de Monica?
On a parlé tout à l'heure de son appartement.
Mais alors, c'est pas la vraie adresse, c'est ça, parce que l'endroit où c'est. Tu veux dire l'endroit où c'est à New York?
Je crois que ça correspond.
En tout cas, c'est l'adresse dont je sais quand on le sait.
Ah,
ouais, on le sait à un moment précis.
Ouais, et c'est... Je me souviens plus de l'adresse.
Mais en fait, je crois que ça correspond à la vraie adresse.
On le voit sur le carton d'invitation qui est envoyé par Ross pour,
pour
son mariage et qu'il envoie à Rachel puisqu'il hésite à le mettre dans la boîte aux lettres. Donc, il y a une adresse et c'est celle-là.
Et bah, c'est le 90 Bedford Street, au croisement de Grove Street.
C'est ça. Ouais. Exactement.
Ouais, je crois que c'est la vraie adresse, ouais. À question suivante, quel est le métier de Chandler avant qu'il change?
Transponster. Ça, c'est la réponse.
Ça, c'est la réponse de Rachel.
Le vrai métier de Chandler.
C'est Monica qui le dit.
Je sais pas, de la data analyse, un truc comme ça.
Bah si, aujourd'hui, on dirait un peu ça, mais...
En partie, ouais.
Data configuration... Non, je vais pas l'avoir, ça me rend fou.
Il est analyste statistique et fait de la reconfiguration de données.
En plus, t'as la traduction française, donc.
C'est data.
Data analyst.
Pour moi, il est transponster et
ou développateur.
Exactement, il est copywriter junior à la fin de la série. Donc,
oui, c'est vrai.
Donc. Moi, je trouve la question est un peu
ambiguë. Ah non, Maxime a dit avant
qu'il change. Avant qu'il change. Le nom du lycée où Monica et Rachel sont allées.
Lincoln High.
Bravo.
Alors, donnez-moi le nom des 7 sœurs de Joey.
Vous en avez au moins 2, non?
Angela.
Oui, Angela, ouais.
Marie-Angela.
Ouais.
Marie-Angela, ouais.
Cookie,
ouais.
Il y avait une Gia ou quelque chose comme ça, un truc comme ça.
Pas loin.
Gina, ouais. Gina, ouais.
Est-ce qu'on les voit toutes à un moment dans la série?
Ouais, enfin, c'est pas les mêmes actrices, mais on les voit toutes.
Donc il y a combien de sœurs en fait?
Il y en a, ouais, c'est ça, ouais.
Gina, j'en aurais pas plus, je pense. Il y a Marie-Thérèse.
Marie-Thérèse, ouais, bravo.
J'essaie de refaire les épisodes dans ma tête où on dit leur nom. Il m'en manque 2, mais je pense que 2, je les aurais pas là.
Il y avait Gina, Cookie, Marie-Thérèse, Marie-Angela, Tina, Véronica et Dina.
Tina et Véronica. Mmh.
Ouais. Et laquelle Chandler embrassait?
Marie-Angela.
Ouais.
Marie-Angela, ouais. À quoi Ross est allergique? 3 choses.
Mais il faut avoir une vie, monsieur. Il faut faire autre chose de sa vie, quand même.
Kiwi. Ouais. C'est sûr, c'est le plus facile. Mmh. Et bah oui. Les autres, non, les autres, je les aurais pas.
À la fidélité et à l'engagement.
Au respect de ses compagnes.
Les crustacés.
Le homard, ouais.
Le homard. Enfin, ouais, du coup, je sais pas si c'est homard ou crustacés qui disent du coup.
C'est homard. On a vérifié, homard. Merci. Okay. On a préparé cette émission.
Et un dernier truc.
C'est classique hein, ouais. Dans le monde des allergies. Hein.
Des poils de chat?
Non, ça se mange.
Ça se mange.
Ça se mange. Bah, les cacahuètes.
Ouais, voilà, ça, c'est ça, les cacahuètes. Et donnez-moi le titre de film porno dans lequel a joué Ursula.
Il y en a plusieurs.
Alors celui qui visionne.
Pardon, celui qui visionne.
C'est un truc avec des vampires, non?
C'est Buffy the Vampire Layer.
Wow, c'est ça, ouais. Ou en français, Buffy, la suceuse de vampire.
Je l'ai vu et c'est... la fin est étonnante.
C'est de qualité.
Moi, mon préféré, c'est Inspector Gadget. Inspector Gadget. Qui est celui dans lequel Gunter l'a vu en réalité.
Ah oui, c'est vrai.
Enfin, qui conseille à Ross et Joey quand il...
Ouais, cette série est vraiment
problématique. On n'a pas parlé de Gunter, mais c'est quand même le personnage qui se fait humilier pendant toute la série. Et qui est peut-être le seul le plus réaliste parce que c'est le seul qui bosse.
Il bosse,
qu'on voit travailler.
Ouais, poubelle à un moment, vraiment, quand même, il y a des...
Il y a le gardien qui travaille aussi, monsieur... Ouais, bon,
Mr. Trigger. Oui.
Ouais. Monsieur Trigger.
De temps en temps, quand il n'est pas en train de danser avec Joey, mais... Ouais.
Alors, dernière question, qui boit le plus de café sur 236 épisodes? C'est Kit Lovelace qui a calculé ça.
Ça doit être. En fait, s'ils font. Donc au Central Perk, tu veux dire?
Oui, au Central Perk, ouais.
Qu'on voit boire le café, c'est ça ou...
qu'on voit boire, ouais.
Donc, ça veut dire qu'en termes d'écriture, c'est un personnage qui parle moins, peut-être?
C'est intéressant comme raisonnement.
C'est-à-dire qu'il faut occuper l'espace. Donc quel est le personnage qui parle le moins? C'est Joey, peut-être, qui parle le moins dans la série ou...
Ouais, mais je le vois pas
toi,
beaucoup.
Toi, tu dis Joey.
Central Perk. Moi, là, comme ça, je dirais.
Je pense que c'est Chandler dont il faut occuper les mains.
Ouais. En vrai, je dirais peut-être une fille, moi, mais. Peut-être Rachel. Mais...
C'est Phoebe.
Phoebe. Ah, oui. Bah, pas, oui, ça marche.
Et Chandler en deuxième.
Ok.
Donc Phoebe, 227 tasses. Oui, non, le mec n'a pas dit, comme tu disais. Non, le mec a calculé, mais on le salue parce qu'il est sympa, Kit Lovelace, d'avoir fait ça.
Après, qui d'un café, qui d'un cappuccino, qui
d'un oui, oui. Je ne sais pas
si. J'étais en train de réfléchir, il est allé, je ne demande pas vraiment. Des fois, on a les commandes, quoi.
C'est marrant parce que
ça n'a pas l'air super, le Central Perk. Enfin, vraiment, on sent que la bouffe n'est pas dingue et que.
C'est pas cosy en plus.
Ça a failli se faire.
Globalement, le canapé, puce de lit à mort, à mon avis.
Mais quand on les voit boire dans un café, moi, j'ai toujours l'impression, je ne sais pas pourquoi, que le café est très très sucré.
Oui.
C'est l'impression que ça me donne quand je vois. Pour moi, il est pas noir, il est pas. Il y a forcément, il est hyper
des,
sucré. Où il y a
énormes,
du lait,
c'est
où,
des bols déjà. Ouais.
Et on en parlait tout à l'heure. Et ce brave Kit Lovelace a également calculé combien ça faisait en dollars. Et donc au total, tous les personnages ont bu pour. Je pensais que ça serait plus. Moi, 2077 dollars.
En 10 ans, c'est vraiment. Ils en payent vraiment que la moitié. Hein, ouais. Parce que 200 dollars, c'est une semaine.
Il a basé son calcul sur le fait qu'à un moment donné, Monica dit combien coûte un scone plus un café. Donc il a fait un savant calcul et après il a sûrement appliqué une règle de 3 ou que sais-je et il est arrivé
monsieur,
à ce
que... Ce monsieur a beaucoup de temps devant lui.
D'ailleurs, parce que le Central Perk au début c'est pas un salon de thé, c'est un espèce de bar à billard.
C'est un
oui,
bar
au départ.
Ah
ouais.
Oui, dans les flashbacks. Exact, ouais. Avec une table de billard.
Mais
oui.
Pour revenir sur le moment où on a quand même un épisode où clairement il y a la notion de qui paye et pourquoi on paye, c'est quand Joey est serveur et qui vient réclamer l'addition à tout le monde. Et du coup, là, il fait le détail et tout le monde dit ça vient de la part de quelqu'un en plus qui n'est pas capable de diviser notre, notre facture de téléphone de 1000 dollars en deux. Quoi.
Et bien, bravo pour vos réponses à ce quiz. On en parlait tout à l'heure, donc tu disais Renan, c'est une série pour des jeunes adultes qui ont quitté leur famille finalement, qui vivent entre amis. Alors si on parle justement des familles respectives des personnages, réaliste pas réaliste, moi j'ai envie de dire quand même un peu réaliste. Alors les parents Geller, ils ont un enfant préféré, c'est quand même hyper réaliste. Les parents Tribbiani, le père trompe la mère, voilà. Les parents de Rachel, le père est relou, la mère fait une crise de la cinquantaine. Enfin, qu'est-ce que vous pensez des familles des personnages?
Elles sont monstrueuses, chacune à leur manière, et ça raconte bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire raconter l'idée que dans les années 90, il faut quitter sa famille, il faut aller vivre dans la grande ville, il faut... Et donc les familles sont vues comme des espèces d'endroits qui vous dévorent, quoi. C'est-à-dire que la famille... je crois que les pires, c'est quand même les parents de Monica et Ross. Moi, je me souviens de
c'est peut-être ceux qu'on voit le plus aussi.
C'est ceux qu'on voit le plus avec cet acteur génial qui s'appelle Elliot Gould, qui était un vrai acteur des années 60-70, notamment au cinéma de Robert Altman, qui est génial et qui a un truc de comédie qui est incroyable. Et moi, je me souviens de cet épisode atroce où il vide le garage et il découvre que Monica, toutes ses affaires ont servi à éponger
la Porsche.
Et voilà, et donc elle gagne la Porsche à la fin. Et il y a un truc de cruauté, mais qui en même temps raconte quelque chose de ces personnages. C'est-à-dire. Ils n'ont pas de famille, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas compter les uns sur les autres. Et Rachel fuit son père au début de la série.
Ouais, donc pour toi, les familles sont horribles pour justifier le fait qu'ils vivent entre amis, parce que c'est insupportable.
Oui, et pour raconter une époque qui est celle des années 90, pour justifier la liberté des personnages. Encore une fois, on vient de la sitcom, c'est le canapé, la famille, la maison. Là,
on sort de ces codes-là.
Et qui, pour moi, c'est pour ça aussi, peut-être qu'il y a une génération qui se retrouve là-dedans, parce que même chez nous, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Moi, autour de moi, les gens aujourd'hui, notamment les gens qui ont des enfants, je suis à un âge où il y a quand même pas mal de gens qui ont des enfants autour de, dans leur vie, c'est les amis qui les gardent. C'est plus la famille, parce que la famille n'est pas à Paris, elle est ailleurs. Donc, il y a ce truc-là. Et en ça, il y a une forme de truc un peu qui moi m'a préparé dans l'idée en tout cas de que les enfants de mes amis ça soit un peu c'est pas mes enfants mais c'est aussi j'ai un rôle
c'est préparé au fait d'être babysitter de tes potes.
Ils le sont d'ailleurs dans la série souvent ils gardent Ben, Emma, enfin voilà, c'est toujours un lieu de gag.
Maxime, sur les familles des personnages, ton opinion, est-ce que ça a influencé ta représentation de la famille?
Non.
Merci, c'était bah, Maxime.
mais ce que tu dis, c'est... Pardon ?
Non, non, pardon, je faisais une blague.
En fait, effectivement, ils fuient tous leur famille pour différentes raisons. Enfin, Chandler, il a sa mère qui écrit des livres érotiques.
Mm-hmm. Oui. Et qui est nymphomane.
Mm-hmm. Et qui est nymphomane. Son père qui est devenu sa mère aussi. Voilà, alors que c'est lui qui paraît, au début, qui paraît le plus normal d'entre tous.
Chandler, tu veux dire ?
Ouais. Enfin, c'est le seul qui...
Et en même temps, c'est celui qui est, il déteste, dans mon souvenir, il déteste Noël, il déteste les fêtes de famille.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et en même temps, et tu as raison, je me souviens, vous avez passé It's Raining Men tout à l'heure, ce qui est très drôle dans cet épisode. Donc, il va à Las Vegas voir le show de sa mère et il dit à la fin, j'étais un des types en train de danser, oui. Moi aussi. Et donc, il y a une enfance de ces personnages. Ouais. Ils ont fait ça il y a récemment, donc il y avait The Big Bang Theory et puis il y a eu Young Sheldon qui racontait l'enfance d'un personnage. Si un jour quelqu'un doit toucher à Friends, c'est ça qu'il faut raconter, l'enfance de Chandler. C'est-à-dire qu'il faut faire Young Chandler. Mm. Et là, bon, évidemment, Matthew Perry, ça sera compliqué aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça le sujet, de raconter l'enfance. On a envie de savoir, on le voit un peu, mais quelle est l'enfance et l'adolescence de ces personnages ? On voit Rachel
on voit un
et Monica.
Peu, oui, Monica,
et,
Ross.
Et cette question d'ailleurs de la grossophobie, qui est vraiment les moments compliqués de la série aujourd'hui.
Ouais.
Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que ça raconte quelque chose de ce personnage, de cette femme qui a dû correspondre à un modèle pour les autres et qui explique qu'elle est quand même une casse-couille en chef de la série. Mmh. Et voilà, donc c'est maltraité dans la série, mais c'est un beau personnage.
Mais Chandler, justement, on voit à un moment donné, quand l'épisode de Thanksgiving, où ils se souviennent tous de moments, où on voit Chandler enfant, qui est à table, on voit qu'il vient d'un milieu très aisé, puisqu'il y a un domestique qui couche d'ailleurs avec le père.
Ah, ça, c'est le lien avec la cage aux folles de Birdcage, qui à l'époque est sortie, où le domestique couche avec... c'est vraiment les gags de l'époque.
Oui, c'est ça, exactement ça. Et donc voilà, on voit un peu quelle a été l'enfance de Chandler.
Mais ça ferait une super série, en tout cas, de découvrir ce gamin, pourquoi il devient...
Ça serait peut-être pas une comédie, par contre.
ce serait un truc d'aujourd'hui, c'est-à-dire malaisant un peu.
Ouais. La famille la plus bizarre, mais du coup la plus gaguesque, c'est quand même celle de Phoebe. Mais c'est pareil, elle est très gaguesque, mais ça repose sur des ressorts hyper dramatiques. Les parents sont morts, sont pas morts, ils l'ont abandonné, ils l'ont pas abandonné.
Ouais, non, c'est ultra dark. Enfin, Phoebe, c'est vraiment le personnage le plus dark de la série. Si tu prends, qu'on parlait d'enlever les rires, tu racontes juste l'histoire de Phoebe à quelqu'un pour lui parler de Friends.
Elle vit dehors, la rue.
Elle a vécu dehors. Ouais,
je crois qu'à un moment, elle parle d'un SDF qui lui crachait dans la bouche.
Elle a poignardé un flic, mais parce que le flic l'a poignardé en premier.
Et elle a agressé Ross.
Elle a agressé Ross, qui c'est vraiment un des arcs narratifs les plus what the fuck de la série.
Mais c'est ça, ça n'a pas de réalité. C'est-à-dire que ça devient un truc de mythologie, où elle raconte tellement d'histoires, et c'est un ressort qu'on retrouve dans la comédie ensuite, c'est-à-dire des personnages qui inventent leur propre mythologie, encore une fois, Met Your Mother, toutes ces séries-là. Donc, oui, c'est très dark, et en même temps, on en rit, parce que c'est jamais réel, même si je trouve que le personnage de son frère, Giovanni Ribisi, est vraiment... Pareil, on n'en a pas parlé, mais c'est imposer à l'écran une histoire d'amour entre des gens pas du tout du ménage, mais dans un
ordre pas habituel, enfin dans un sens pas habituel dans les séries.
Et ça, c'est assez beau. Oui. C'est assez beau. Oui.
Et on continue à en parler après une petite musique.
Camera off, real blasting. I had to give you more. It's only been a year.
Let Me Blow Your Mind à l'instant sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours Sériologie pour la dernière partie.
Let Me Blow Your Mind, saison 8, épisode 8, celui qui engageait une stripteaseuse avec Monica qui essaie de faire un striptease, qui tente de faire un striptease à Chandler.
Qui lui dit ne parle pas.
Don't narrate.
Magnifique, cette série est vraiment problématique, c'est un peu la conclusion.
Mais non, mais en fait, il faut quand même le dire, c'est-à-dire que c'est quand même extrêmement drôle et je mets au défi quiconque sur les multiples rediffusions sur toutes les chaînes de télévision française, quand on tombe dessus, on s'arrête. Je crois que je connais toutes les répliques, tous les gags, je sais quand ça démarre, et pourtant je suis tellement content. C'est vraiment ce qu'on appelle un tube.
Ouais. Mais je dois quand même vous poser la question à tous les trois, hyper cliché, mais je vais la poser. Est-ce que ça a bien vieilli ?
Bah, franchement, moi quand je fais le parallèle, là la série elle a 30 ans, quand j'ai commencé à regarder, donc quand c'est arrivé sur
tu
France 2...
Tu n'étais pas né, Max.
Non, j'étais pas né. Mais quand j'ai commencé à regarder sur France 2 en 96, il faut imaginer les séries qui avaient 30 ans en 96, donc dans les années 60, c'est quoi ? C'est Ma Sorcière Bien-Aimée.
Ouais. Ouais.
À l'époque, en 96, Ma Sorcière Bien-Aimée me paraissait énormément vieilli, vieux, etc. Alors que Friends,
c'est l'image aussi qui fait ça.
C'est l'image, le grain, mais les fringues, les personnages, enfin tu vois bien. Et là, dans Friends, j'ai l'impression, alors peut-être pas les toutes premières saisons, mais que ça a quand même bien vieilli. Enfin, je regarde pas ça comme un vieux truc quand je regarde, mais peut-être parce que, enfin, moi c'est ce que j'en pense.
Moi j'ai ce côté, c'est un peu dur à dire, j'ai tellement vécu avec pendant ces 20 dernières années que je vois pas, j'ai du mal à m'imaginer ce que c'est que le regarder avec des yeux neufs. Je peux conseiller, il y a vraiment un podcast que j'ai beaucoup aimé qui est le podcast Ami,
bien sûr, de Anaïs Bordage,
ouais. Avec Marie Telling.
Marie Telling, ouais.
Et où elle fait découvrir, Marie fait découvrir à Anaïs cette série à côté de laquelle elle était passée. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment quelqu'un, une trentenaire d'aujourd'hui, reçoit la série. Voilà, en 2020, quoi.
Pour moi, c'est comme de se poser la question, est-ce que Peter Pan, ça a vieilli ? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnages ne bougent pas, ne vieillissent pas. Donc, en fait, ils peuvent pas... Ils sont pas soumis au temps, puisqu'ils sont pas dans la réalité, entre guillemets. Donc, à la fois, ils vieillissent parce que c'est... En fait, c'est nous qui vieillissons, c'est pas eux. Ce qui est un peu déprimant.
C'est dur, ce que tu dis.
Mais je vous dis avec mon meilleur sourire. C'est-à-dire que c'est nous, en fait, et je pense que... Et c'est intéressant, tu disais, au départ, je voulais être Chandler. Et je pense qu'on démarre, on veut tous être Chandler. Et malheureusement, dans la vie, c'est de se rendre compte qu'on finit Ross. Je pense que c'est ça. Et pire, dans la vie, c'est de se rendre compte qu'on finit Gunther. C'est-à-dire celui qui est absolument...
Le plus réaliste, on en revient à ça.
Et c'est ça où...
Ou Monsieur Heckel.
Ouais, voilà. Mais, ou le gros tout nu qui vient en face. Et voilà. Mais,
les voisins confirment.
Mais je pense que c'est nous qui vieillissons et pas la série. Après, moi, il y a un truc, je désespère aujourd'hui que personne n'ait réussi à... trouver un équivalent à ça. Pour moi, il y a...
On va faire le Friends d'aujourd'hui.
Pour moi, il y a une autre série mais qui est très méconnue qui s'appelle Happy Endings, qui est une série, qui est une sitcom, alors qui n'est pas une sitcom comme a été tournée Friends, parce que c'est vraiment Friends, c'est une sitcom traditionnelle tournée en public. Là, Happy Endings, c'est ce qu'on appelle la sitcom moderne, c'est-à-dire c'est vraiment tourné avec des caméras en studio, tournée, voilà. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une série formidable, ça a 3 saisons, c'est hilarant, ça s'appelle Happy Endings, c'est pareil, c'est une bande de copains qui vivent, voilà, avec des gags très modernes, des gags référencés, tout ça, ça c'est super. Depuis, je n'ai jamais trouvé une série comme Friends. Et je désespère même aujourd'hui qu'en France, on ne soit pas capable d'écrire une chronique, c'est-à-dire de nous raconter la vie des gens.
Ouais.
C'est-à-dire que, voilà, de raconter des gens qui j'en ai marre des séries avec des gamins qui sont morts, des trucs comme ça. Je veux qu'on me raconte la vie des gens parce que c'est ça à ça que j'ai envie de m'identifier. Donc, cette série, elle a peut-être vieilli, mais tant qu'on n'aura pas trouvé mieux, on va y revenir.
Elle remplit un rôle que d'autres séries n'arrivent pas à remplir pour l'instant. Okay. Bah merci à Renan, à Pitoum et à Maxime. Sériologie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour tenter de répondre à la question, est-ce que le lieutenant Colombo, je me trompe toujours, est de gauche ?